Oh, les usines automobiles. Mais vous avez des gens qui travaillent dans tous les domaines de l'industrie, mais honnêtement, dans le petit commerce, par exemple. Déjà, il y a une cinquantaine de bistrots arabes ou de restaurants arabes dans Paris. Il y a aussi plein de petits commerces. C'est-à-dire que ce qu'on a oublié aujourd'hui, c'est qu'il y a des colporteurs maghrébins dans Paris, qui est un vieux métier parisien, des petits vendeurs de rue, par exemple. Vous avez aussi, comme ça, un certain nombre de maillages dans la ville, d'intellectuels aussi, qui sont présents. Aussi bien d'ailleurs syriens, libanais, qu'algériens, marocains, tunisiens. Ce que je veux dire, c'est que Paris est vraiment une capitale du monde arabe. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on envoie les élites du monde arabe étudier à Paris, parce que le voyage initiatique de Paris, les études à Paris, et même, je dirais, le bain qu'on rencontre à Paris est un bain de mélange et de rencontres qu'on ne peut pas trouver ailleurs. L'ensemble de l'élite algérienne de l'époque, qu'il soit d'ailleurs d'origine plutôt nationaliste, plutôt socialisante, voire même monarchiste, voire tout simplement au niveau des oulémas, vous les croisez tous dans Paris. Vous avez également, dans des ligues d'extrême droite, des militants indochinois ou maghrébins. L'histoire, par exemple, d'Abraham El-Mahdi, qui terminera sous drapeau allemand, mais également proche de la milice, qui sera numéro 3 du PPF de Doriot, ce qui n'est pas rien. Par exemple, le 12 février ou le 6 février, j'ai un trou de mémoire, en février 34, dans les grandes manifestations des ligues dans Paris devant le Parlement, le premier mort est un maghrébin d'Action française. Je veux dire qu'il faisait partie de la vie politique de la cité.
Voilà.
C'était des militants de la ville, ils étaient acteurs de cette histoire, mais vous avez aussi des grands noms qui sont partis avec les brigades internationales. Et vous avez, pendant les années 24, le Parti communiste présente des maghrébins aux élections municipales dans Paris. Alors, ce qu'il faut voir, justement, c'est qu'il y avait, si vous préférez, une vie quelque part plus normale qu'au Maghreb. Pourquoi ? Parce qu'à la fois, si Paris est une capitale coloniale, Paris est aussi la ville des libertés. C'est-à-dire qu'à Paris, on pouvait s'exprimer politiquement. Même s'il y avait cette pression des organismes de contrôle et autres, il y avait quand même une plus grande liberté qu'à Alger, Gaza ou Tunis.
Alors, le 11 septembre 2001 a lâché les chiens du racisme anti-arabe et de l'islamophobie, mais ce rejet a une histoire. Si on écoute Pascal Blanchard, eh bien, cette islamophobie qui sévit actuellement a une histoire, et cette histoire est visible encore à certains endroits dans Paris.
Autant avant, il y avait le banania, le bamboula, et tout ce qui est la stigmatisation du maghrébin. Le rejet de plus en plus important s'enracine dans ces années-là.
Oui, on peut presque le suivre au jour le jour. C'est-à-dire que vous avez cette progression des années 20 à 26 où va commencer à se fixer ce discours sur les phrases dans le roman noir à l'époque, ce n'est plus le boulmiche, c'est le bougnoulmiche. Si on veut voir le double jeu de mots de cette invasion qu'il y a, ou ces textes sur qui tue, c'est le Sidi qui tue avec son couteau qui nous attend à l'angle de la rue. Vous commencez à voir les thèses de Moko sur les indésirables en France, vous commencez à voir des bouquins qui sont sur 3 millions d'étrangers en France, sur les métèques. Tous ces mots sont des vocabulaires de l'époque. Ce que vous retrouvez dans Je suis partout, dans l'Action française, dans Gringoire, dans Candide, dans l'Ami du peuple de Coty, où on nous raconte que Paris est envahi par des hordes de peuples de couleur qui vont venir violer nos femmes en peau de léopard, qui étrangleront nos enfants, qui viendraient envahir Paris, comme on disait à l'époque. Et donc tout ça monte progressivement dans tous ces années 20, en toile de fond d'une inquiétude post Première Guerre mondiale, d'une société qui s'enfonce aussi progressivement dans une crise qui va arriver à la fin des années 20. Et donc, tout ça est assez prégnant et il faut le mesurer, c'est que vont se construire à ce moment-là tous les stéréotypes d'exclusion, parce que plus de Maghrébins, par exemple, arrivent en France, plus la construction d'un rejet de cette population migrante sur le sol métropolitain va commencer à prendre forme. Donc vous avez tout ce contexte de pression et qui va pratiquement trouver son apogée à la fin des années 20, au moment où justement on glorifie dans Paris avec une humiliation ultime, totale, le centenaire de la conquête de l'Algérie en 1930. C'est l'une des plus grandes humiliations qu'on ait pu faire à l'Algérie. C'est-à-dire qu'on n'a pas simplement commémoré la présence de la France, on a commémoré une défaite, on a commémoré une humiliation et on le fait avec faste. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut imaginer ce contexte. D'un côté, vous avez cette pression dans la ville, ce rejet xénophobe. De l'autre côté, vous avez cette humiliation totale qu'est 1930, qu'est la commémoration du centenaire de l'Algérie. Et vous aviez ici la grande mosquée, vous avez tous les bistrots arabes en Paris. Donc il faut quand même imaginer que dans cette ville, en permanence, vous avez ce rythme entre regard sur l'autre et ouverture à l'autre, et en même temps oppression coloniale, et en permanence on lui renvoie cette image d'homme humilié, d'homme dominé. Et ça, c'est ce contexte qui fait qu'en 1930, quasi l'image du maghrébin non intégrable, indésirable, rejetée, est quasi fixée. Et en même temps, je le dis bien, c'est tout le paradoxe de Paris, c'est la ville de la liberté, c'est bien plus humiliant à Alger.
Voilà.
Essayons d'imaginer un peu cette contradiction formelle que symbolise Paris à ce moment-là. C'est sous ça. Et je pense que le problème de la Grande Mosquée, pour ça, est assez emblématique, c'est qu'on est à la fois dans un lieu aujourd'hui magique, regardez, on est à l'intérieur de ces jardins, on est dans un bout quelque part du Maghreb, d'Afrique du Nord ou de l'Orient. Donc en même temps, cette ville peut construire ce lieu, et en même temps, cette ville peut penser le rapport à l'autre d'une manière aussi excluante, autant inscrite dans le rejet. Et c'est tout ce paradoxe-là qui fait notre relation extrêmement ambiguë, encore aujourd'hui, aux petits-enfants, aux arrière-petits-enfants, issus de cette histoire.
Sur la côte marocaine, je connus en visitant le Rif. Allah, Allah, la fille aussi dit couche-toi là, une Fatma qui a des